France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Mineta Diawara. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Un retour de Birmanie avec le journaliste Guillaume Pajot qui a pu se rendre à Rangoon où se tenaient des élections organisées par l'armée. Il raconte une ville sous étroite surveillance et l'amertume de ceux qui s'étaient opposés au coup d'État de 2021. Et puis dans la table ronde d'actualité, nous essayerons de comprendre comment la question de la régulation des géants du numérique est devenue un point de discorde majeur entre l'Europe et les États-Unis alors que les locaux de X étaient perquisitionnés cette semaine à Paris. Nous en discuterons avec nos invités, Ophélie Coelho, qui est chercheuse à l'IRIS et doctorante au Centre Internet et Société du CNRS, et Olivier Alexandre, sociologue, directeur adjoint du Centre Internet et Société du même CNRS, et une émission co-animée par Marc Semo, comme chaque vendredi, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Guillaume Pajot.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant. Vous revenez de Rangoon, la capitale économique birmane, où vous avez eu l'autorisation de vous rendre en janvier à l'occasion des législatives organisées par l'armée. Un scrutin qui n'avait d'élection libre que le nom et qui a vu, sans surprise, le parti de la junte triompher 5 ans après la victoire électorale de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, à laquelle l'armée s'était opposée en prenant violemment le pouvoir, les militaires semblent tenir leur revanche. Les habitants, quant à eux, assistent à l'emprise progressive de la junte sur les institutions et doivent faire face à la dégradation de leurs conditions de vie ainsi qu'à une surveillance généralisée. Il vous était impossible jusqu'à présent, Guillaume Pajot, de retourner à Rangoon et en Birmanie, un pays que vous couvrez depuis de longues années. Quelle impression la ville vous a-t-elle faite ? A-t-elle beaucoup changé ?
En fait, j'étais pas retourné en Birmanie depuis 2019. J'avais couvert le pays par les régions périphériques. Le pourtour du pays qui est largement tenu par des guérillas qui s'opposent à la junte militaire. Et là, c'était l'opportunité de retourner à l'intérieur du pays sous la botte de la junte. Et la première impression marquante, c'est qu'il y a un sentiment très étrange. On se dit, tiens, la ville n'a pas trop changé depuis 2019. Et puis après, on réfléchit, on se dit, mais en fait, c'est un énorme problème que la ville n'ait pas changé, puisque c'était Rangoon en 2019, c'était une ville en plein développement. Il y avait un phénomène de transition économique, politique. Et en fait, la ville a stagné, et économiquement en tout cas, en apparence. Et puis après, dès qu'on rentre un peu dans les détails, on voit effectivement dans les profondeurs de la ville et de l'esprit des gens à quel point tout est un peu brisé et tout est devenu extrêmement, extrêmement difficile.
Et vous arrivez dans un moment particulier, un moment électoral, même s'il est contrôlé. Dans quelle atmosphère les élections se sont-elles déroulées ? Est-ce qu'il y a eu un semblant de campagne ? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était important pour les militaires d'afficher l'idée d'une normalité électorale ?
En fait, les militaires font leur élection à marche forcée. Il y a quasiment pas eu de campagne électorale. Le principal parti en Birmanie, qui était la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, qui a remporté largement les élections à plus de 80% en 2020, a été éradiqué par la junte militaire. Le parti est interdit. Les gens qui en font partie sont traqués, ont dû fuir à l'étranger, sont incarcérés. Il y a un semblant de compétition électorale, un résultat qui aujourd'hui est à 80% en faveur du parti pro-militaire. Donc la junte a créé ses élections, organisé ses élections, gagné ses élections. Et c'était le spectacle qui était attendu. Et en tant que journaliste, notre but c'était d'aller bien au-delà de tout ça.
Ce spectacle, cette mise en scène, les habitants étaient fortement incités à y participer. Vous décrivez les bureaux de vote où attendaient les électeurs des produits gratuits, des produits alimentaires notamment. Mais au-delà de ces incitations, il y avait aussi de la pression. Vous racontez notamment la scène d'un homme âgé, alité, qui vient voter en ambulance.
Oui, c'était très surprenant. En fait, au cours de la journée de vote, on recueillait des témoignages de plus en plus surprenants, de gens qui étaient forcés à voter, qui racontaient des pressions de par les chefs de quartier, de par des proches, qui leur disaient « si tu vas pas voter, on va voir que sur les listes t'es pas venu voter et il y aura des répercussions pour toi ». Même des gens qui étaient farouchement anti-militaires sont allés voter à cause de ça. Et à un moment, arrive une ambulance au bureau de vote et je pensais qu'un électeur avait fait un malaise. Et on s'approche de l'ambulance et la femme de la personne qui sort de l'ambulance vient me parler et me dit « en fait, c'est mon mari, notre fille nous a dit « il faut absolument que vous alliez voter, sinon je vais avoir des problèmes ». Et donc ce mari qui a fait deux AVC a été forcé d'aller voter, il pouvait à peine lever le bras. Voilà, il a doublé tout le monde, il est allé voter et puis il est reparti aussi sec dans son ambulance.
Vous rencontrez un des candidats du PSDU, donc le Parti de l'Union de la Solidarité et du Développement affilié à la junte militaire. C'est un colonel à la retraite, Tint Wai, 71 ans. Pour quelle raison cet homme se lance-t-il entre guillemets en politique ?
En fait, c'est quelqu'un qui s'était déjà présenté en 2015 et qui avait perdu face au parti d'Aung San Suu Kyi. Le parti pro-militaire, à l'époque, s'était fait balayer. Et l'armée
avait... Et ça avait été considéré comme une humiliation à l'époque.
Exactement. Et l'armée avait dit, non, mais il y a eu des fraudes. Et puis, quelques mois plus tard, paf, coup d'État. Donc, l'armée est aussi en train de recycler toute une partie de ses cadres ou de ses anciens cadres et de leur donner des fonctions politiques et de les installer dans le système, on va dire, de façon durable. À des fonctions parlementaires ou dans des chambres régionales. Et ce type de personnages-là, qui sont des gens très aisés, influents, vont trouver une influence redoublée et vont pouvoir prospérer grâce à des nouvelles fonctions politiques.
Ce qui est frappant dans son parcours que vous décrivez, cet homme a combattu les guérillas dans sa vie, les guérillas ethniques. Il a aussi été attaché à l'ambassade de Birmanie en Chine. Il a organisé de l'achat d'armes, notamment. Qu'est-ce que ce parcours-là, jusqu'à la prétention politique, raconte aussi de la fusion entre l'institution de l'armée et l'État birman ?
En fait, à part cette brève période de, on va dire, de transition démocratique, grosso modo 2010-2021, la Birmanie a été largement sous le contrôle des militaires. Et du coup, effectivement, toutes les fonctions diplomatiques, toutes les fonctions, on va dire, économiques privilégiées sont trustées par les militaires. Et ces personnages-là naviguent dans toutes ces sphères. C'est aussi un personnage qui a des biens économiques, qui est propriétaire, voilà. Et en fait, les militaires, que ce soit au sommet ou au plus bas de l'échelle, essaient d'avoir toutes ces multiples casquettes pour effectivement prospérer et aux dépens du reste de la population, évidemment.
Il y a tout juste 5 ans, Guillaume Bajot, en février 2021, la population s'était soulevée contre le coup d'État mené par les militaires. Et à Rangoon, notamment, dans la ville, on avait vu ces scènes de guérilla urbaine, des sacs de sable posés dans les rues par les manifestants pour empêcher l'armée de passer des barricades de fortune. Qu'est-ce qu'il reste de tout cela aujourd'hui dans la ville ? Est-ce qu'il y a encore des traces visibles, que ce soit par les graffitis sur les murs ou les impacts sur les bâtiments ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de visible de ce moment-là ?
À Rangoon, la junte a fait tout son possible pour effacer toute cette histoire, que ça soit dans les propos ou sur les murs, dans les rues. Voilà, donc moi j'étais vraiment à la recherche de tout ce qui restait en fait de cette période-là. Et il reste quelques graffitis mal effacés sur les murs. Il reste une présence sécuritaire importante, des sortes de petits fortins aux intersections des routes ou devant les commissariats pour surveiller les allées et venues. Il reste des choses comme ça, mais la junte effectivement a envie de faire une sorte de reset par rapport à cette histoire et de tout effacer, quoi, faire comme si ça n'avait pas existé.
et ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, vous en rencontrez quelques-uns, et c'est d'ailleurs très risqué pour eux de s'adresser à vous en tant que journaliste étranger, mais ils vous racontent ce qu'il s'est passé il y a 5 ans. Il y a par exemple Koye, qui a 32 ans, il a lancé des cocktails Molotov contre l'armée en 2021. Aujourd'hui, il vit, il survit à Rangoon. Comment lui perçoit-il ce qui s'est passé à ce moment-là et puis sa vie d'aujourd'hui?
En fait, la révolution de printemps, donc quand les gens se sont soulevés au moment du coup d'état militaire contre l'armée, qui a duré quelques mois, puis ensuite qui a dégénéré en guerre civile généralisée, c'était vraiment un moment d'espoir pour les gens qui ont cru. Et puis petit à petit, la répression était tellement violente, les gens se faisaient tirer dessus à balles réelles qu'ils ont dû céder. Et beaucoup de gens contemplent cette période avec beaucoup d'amertume et se font écraser par les conditions économiques actuelles. Donc, impossible d'espérer aussi une résurgence du mouvement dans de telles conditions. Koye, par exemple, son but aujourd'hui, c'est de survivre, de juste nourrir ses enfants et sa famille. Il n'est pas question de se rebeller. La rébellion viendra après, une fois que tous les ventres auront été remplis chez lui. Voilà, c'est ça vraiment sa problématique à lui aujourd'hui.
Une survie qui se double aussi d'une atmosphère de surveillance. Vous avez commencé à l'évoquer, la ville est quadrillée de checkpoints, il y a une très forte présence militaire, mais tout ne se voit pas parce qu'il y a aussi des informateurs qui sont en civil et qui infiltrent ces quartiers qui avaient été des bastions de la résistance. Comment est-ce que cela est perçu par les personnes que vous rencontrez? Quelle pression cela crée aussi au quotidien?
Ça crée beaucoup de tensions, de stress. Voilà, quand on parle d'un sujet sensible, il faut savoir où on en parle et avec qui on en parle. Il faut faire des conversations dans les voitures, discrètes. Il faut regarder qui écoute à la porte. Il faut être certain qu'il y ait de la musique un peu forte pour qu'on puisse se parler sans être entendu. Les gens vivent toujours, en tout cas les gens qui ont envie de parler de ces choses-là, vivent toujours avec ça dans un coin de la tête. Et effectivement, la liberté de parole est difficile dans ces conditions-là. Il faut vraiment mettre les gens très à l'aise et leur assurer des conditions de sécurité optimales.
D'ailleurs, rester à Rangoon et vivre dans ces conditions-là, ou bien partir, c'était un choix qui s'est posé à de nombreux militants de la révolution du printemps. Ceux que vous rencontrez, par définition, sont restés. Mais il y en a qui se posent encore la question de partir, comme par exemple cette jeune femme d'une quarantaine d'années, Soué. Elle était une petite main de la résistance. Et puis, elle a été arrêtée. Elle a fait 4 ans de prison. Et quand vous la rencontrez, elle s'apprête à partir dans l'État Karen. Qu'est-ce qui l'attend là-bas?
Elle, son objectif, c'est de traverser la frontière et de se réfugier en Thaïlande. Voilà, comme on fait beaucoup de militants birmans, de figures de la résistance. Elle avait un petit rôle, effectivement, dans la résistance souterraine à Rangoon pour essayer d'organiser des attentats, des attaques, faire circuler des armes et pouvoir se rebeller contre l'armée. Nous, on l'a rencontrée la veille de son départ, vraiment dans un moment vraiment très spécial pour elle. Elle s'apprêtait à dire au revoir, grosso modo, à tout le monde, à tous les gens qu'elle pouvait rencontrer, et puis partir discrètement, traverser la frontière illégalement, puisqu'elle ne va pas prendre l'avion sinon elle risque d'être arrêtée. Elle va traverser la frontière illégalement et se rendre en Thaïlande et voir un peu ce qui l'attend là-bas. Elle avait quelques connaissances là-bas, mais rien de plus.
Et puis il y a ceux qui s'inquiètent d'être recrutés par l'armée, puisque le service militaire est obligatoire en Birmanie. Vous rencontrez un lycéen qui vient tout juste d'avoir 18 ans, qui vous raconte avoir vu un de ses amis échapper rafler à l'armée et puis finalement échapper. Mais quels sont les échappatoires pour des jeunes hommes comme cet étudiant que vous rencontrez?
L'exil, déjà, c'est effectivement la solution. Lui rêve vraiment de partir, de faire autre chose, quoi. À la fois pour des questions d'opportunités économiques, mais aussi pour échapper à un recrutement forcé. On estime qu'il y a à peu près 80 000 nouvelles recrues depuis 2024, depuis que la loi sur la conscription a été mise en place. Les hommes entre 18 et 35 ans peuvent être recrutés, les femmes aussi. Donc c'est extrêmement large. Donc c'est une menace qui plane sur la société extrêmement importante, sur toute la jeunesse. Donc des parents cherchent à éviter à leurs enfants de connaître ça. Des jeunes, pareil, cherchent des ruses pour éviter d'être recrutés. Donc c'est la corruption, les pots de vin pour éviter ça. Et ceux qui n'en ont pas les moyens, la fuite, ou alors accepter ce sort-là de participer à de participer à ça.
Et parce que pour la junte, il y a un enjeu existentiel qui est celui de reconquérir l'ensemble du territoire. Peut-être nous redire un peu un mot de ce contexte-là, en dehors de Rangoon. La junte ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Il y a de multiples guérillas. Il y a les guérillas ethniques qui existent depuis des dizaines d'années. Il y a les forces des militants de la Révolution qui ont créé aussi leur propre mouvement armé. Aujourd'hui, le rapport de force, il en est où ? À un moment, il y a quelques mois, on pensait que la junte allait céder du terrain, qu'elle était dans une mauvaise passe. On en est où là ?
En 2023, des forces associées à la résistance ont réussi à gagner de larges pans de terrain. Et puis, la pression de la Chine sur ces groupes-là, dont beaucoup de groupes dépendent, la conscription finalement qui a aussi renforcé les troupes de la junte militaire ont permis à la junte de reconquérir du terrain. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt en faveur de la junte, en tout cas, et pas forcément en faveur de la résistance. Y a un rapport de force un peu dans toutes ces régions périphériques où la junte cherche effectivement à regagner du terrain. Elle a démarré un peu ça en milieu d'année dernière. Et là, ça continue. C'est très dur pour la résistance de tenir, puisque la junte militaire est quand même soutenue par la Chine et par la Russie. Donc en matière d'armement, ils ont vraiment accès à des choses auxquelles la résistance birmane n'a pas du tout accès. Aucun État officiellement ne soutient la résistance birmane, donc c'est très très compliqué pour eux.
En même temps, vous disiez qu'ils sont dépendants de la Chine, donc il y a un double jeu de Pékin.
C'est vrai, tout à fait. La Chine, effectivement, soutient en sous-main certains groupes, mais officiellement, ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup Guillaume Pageot. Vos reportages en Birmanie sont à lire sur le site de Libération. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de terrain.